Morning Edition from NPR News.
Merci, Tizan, Inberhausi.
Haliam, Radio Rosana, Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Nous avons Boko Maroc ce soir qui joue en demi-finale de la CAN ce soir, qui a fait du foot le troisième pilier de sa diplomatie. La génération Z n'en a pas oublié pour autant qu'elle était dans la rue il y a quelques semaines à peine, dans un royaume qui va probablement changer de monarque dans un avenir, disons, assez court. Et on en parle avec notre invité dans un tout petit instant. Est-ce qu'attaquer l'Iran colle vraiment au logiciel de Trump? On demandera à Louise Baudet, qui remet le monde à l'endroit tous les soirs. Le reportage est au Portugal avant le premier tour de l'élection présidentielle dimanche, qui verra, disent les sondages, le candidat d'extrême droite accéder au pouvoir pour la première fois.
Aujourd'hui, on cotise pour des gens qui n'ont jamais rien fait. Il y a des migrants qui viennent ici et qui vivent à notre crochet. Il faut qu'il y ait une révolution.
Un reportage à découvrir ensemble autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé l'Inde à la recherche d'un éléphant tueur. Et puis mercredi, Ilana Mor-Youssef lit et relit au fil de l'actualité. Ce soir, ce qui l'a interpellé, vous tous aussi, j'imagine, c'est le mariage d'une femme avec un manga. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Tu n'as pas de débat. Franchement, très bon match de la part du Maroc. Bonne solidarité, pas de dangerosité de la part du Cameroun. Il y a zéro débat. On mérite amplement la victoire. Et évidemment, c'est la victoire de tout un peuple.
Voilà, zéro débat, ça se passe à la sortie du match Cameroun-Maroc, c'était vendredi dernier. Bonsoir Pierre Vermeeren.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire du Maghreb contemporain à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez notamment écrit « Le Maroc, un royaume de paradoxes en 100 questions » chez Talendier. Le Maroc, donc je le disais, en demi-finale de la CAN, c'est ce soir, pendant que le pays va s'arrêter, j'imagine, mais il doit déjà être arrêté parce que tout le monde regarde Égypte-Sénégal pour voir qui sera l'adversaire. On ne va pas découvrir, Pierre Vermeeren, que la CAN est un puissant levier patriotique, un puissant levier nationaliste pour le pays, pour sa place dans l'Afrique, pour sa place dans le football. Est-ce qu'au Maroc, ça dit même encore autre chose? Est-ce que ça dit même mieux que ça ou pas?
Mieux que ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'imagine pas effectivement l'ambiance qu'il peut y avoir à Casablanca ou dans les grandes villes en ce moment. Tout s'arrête, toute la population regarde le match, c'est une espèce de fièvre à la fois patriotique et nationaliste, extrême, avec une passion pour le football qu'on retrouve dans tout le Maghreb, mais qui au Maroc, avec les résultats de ces dernières années, a pris une proportion considérable. Et bien sûr, les enjeux ne sont pas seulement sportifs, ils sont
exactement
aussi politiques.
Et on va y venir, bien sûr, mais justement, utilisés par les autorités, comment? Est-ce que c'est une vitrine, au fond, dont les Marocains ne sont pas dupes, mais on verra après? Est-ce qu'on peut le résumer comme ça ou pas?
Oui, on peut dire ça, parce que là, c'est vraiment le résultat, là, la construction des stades, la tenue de la CAN au Maroc, puis de la Coupe du Monde en 2030. C'est vraiment la volonté de la monarchie depuis plusieurs dizaines d'années. Un énorme investissement diplomatique, financier, politique, et qui aboutit donc à ce résultat, et qui a été parfaitement introduit, évidemment, par le niveau d'accès du Maroc à la Coupe du Monde dans cette demi-finale qui a fait trembler le pays et qui... Donc on est sur cette lancée-là. Donc du point de vue patriotique, c'est évidemment un très grand succès et une très grande passion.
Allez, on va y aller justement au Maroc un instant pour comprendre ce dont on est en train de parler. Est-ce que ce sera, si on gagne, j'annule tout, puisqu'on parlera de la génération Z, bah vous allez voir que pas tout à fait, et même pas du tout, le reportage est signé François Imfer Kataji.
Abdou, 25 ans, excité et impatient, sera tout à l'heure dans l'une des 13 fan zones de Casa pour voir le match. Mais il se rappelle qu'il y a 3 mois à peine, il craignait que la révolution n'éclate dans le pays, tout en soutenant les revendications de la jeunesse.
Moi, j'aime dire que, bon, pour les Marocains, ils ont une courte mémoire. Donc, pour être un petit peu très honnête, que moi, après les protestations, donc, j'étais à deux doigts d'acheter donc, les ressources, donc, l'eau et tout ça, donc, vraiment pour protéger la famille. Maintenant, donc, on a vraiment tourné la page. Donc, on est maintenant dans l'ambiance CAN. On est plutôt très supporters de tout ce qui est foot.
Les images fortes des stades flambant neufs et vibrants marquent désormais les esprits. Comme cet hymne national repris à l'unisson par les 64 000 spectateurs du stade Moulay Abdallah, juste avant le coup d'envoi du match Maroc-Cameroun en quart de finale. De quoi faire tout oublier? Pas tout à fait, selon Iliès. Il regarde d'un œil amusé la compétition, mais au fond, celui qui a participé aux premières manifestations de Gen Z 212 a déjà perdu tout espoir de changement.
Bien sûr, il y aura un peu de joie et de plaisir pour un petit moment. Et puis après, les Marocains vont se souvenir du prix à payer pour tout cela. on va se rappeler de ce qu'on veut, nos droits, etc. Peut-être pas, peut-être que tout sera oublié, je ne sais pas. Les Marocains sont complètement imprévisibles. En tout cas, moi, je ne crois plus en rien. Pourquoi devrais-je y croire et me préoccuper de l'avenir de ce pays? Il n'y a pas de droits, pas de travail, beaucoup de chômage, de drogue, de gens qui dorment à la rue. Alors la seule chose que nous pouvons faire, c'est travailler, se battre pour survivre et quitter ce pays dès que possible.
Alors que le pays est concentré sur la CAN, le Premier ministre Aziz Aghanouch a discrètement annoncé à ses proches qu'il ne sera pas candidat à la réélection de la présidence de son parti, ce qui marque probablement son départ du gouvernement à l'issue de la législature en cours. Le Premier ministre était l'une des cibles prioritaires du mouvement de contestation Gen Z 212.
Merci à François Mferketadji pour le reportage. Pierre Vermeren, ce deuxième jeune homme, on le garde en tête. De toute façon, qu'on s'en souvienne ou qu'on s'en souvienne pas, on s'en fout, il n'y a rien pour nous. Et on part en France, on s'en va, ou en France ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'il parle anglais, le plus rapidement possible. Ça dit quand même des choses sur l'état de ce Maroc, malgré ce qu'on verra ce soir dans le stade et ce qu'on a déjà vu.
Oui, bien sûr, il y a la vitrine sportive, il y a aussi la vitrine diplomatique, très brillante à certains égards, on en parlera peut-être.
Bien sûr.
Et puis il y a la situation réelle du pays, la situation sociale, économique, qui est celle à la fois d'une forme de détresse pour une grande partie de la population. Parce que là aussi, il y a une vitrine très brillante dans les grandes villes, dans les métropoles du Maroc. On les connaît, Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech, qui ont reçu beaucoup d'investissements, beaucoup de visiteurs, là où se déroule le tourisme et les affaires. Mais dans le reste du pays, évidemment, c'est beaucoup plus critique. D'autant plus qu'on sort de 6 années à minimum de sécheresse, extrêmement dure, qui rappelle la grande sécheresse des années 80. Et donc, la détresse... Et puis, alors, il y a eu les années de crise, à la fin... Il y a eu la révolte du Rif, il y a eu la crise économique internationale, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup d'événements qui ont ralenti très fortement la croissance. Aujourd'hui, elle est repartie depuis 2 ans, notamment grâce aux investissements des stades et des équipements. Mais le chômage est très élevé, le travail des femmes très peu abondant, le travail pour les jeunes aussi manque. Donc oui, cette détresse sociale, elle est là intacte, en particulier dans les périphéries du pays. Mais bien sûr, en période d'exode rural, la périphérie jaillit sur les centres.
Et aucun espoir de redistribution après la Coupe du Monde, parce que les chiffres, ils sont quand même assez hauts, 1,3 milliard pour refaire les 6 stades, pour la CAN-là, mais aussi pour la Coupe du Monde à venir. Aucun espoir de redistribution pour cette génération-là?
Pas de cet argent-là, en tout cas, parce qu'il a été investi dans le béton, puis ça va continuer, bien sûr, pour la Coupe du Monde.
Mais de ce que ça a rapporté, de ce que ça aura rapporté...
Non, parce que ça ne rapporte pas tant que ça, si vous voulez. C'est le Maroc, aujourd'hui, c'est un pays qui a bien pratiquement 40 millions d'habitants, peut-être pas tout à fait, mais il y a un défaut de croissance structurelle depuis longtemps. Alors, elle n'est pas nulle, elle est même un petit niveau qui se tient, mais il faudrait évidemment une croissance de type asiatique pour sortir, pour arracher les masses de leur situation de précarité. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas ces dernières 20 années.
Alors, vous l'avez dit, il y a le paradoxe, parce que sur le plan régional, sur le plan diplomatique, le Maroc a gagné quelques vraies batailles. Celle contre l'Algérie, au fond, sur le Sahara occidental, qui a été extrêmement importante. Et puis, rapprochement avec Israël, rapprochement avec les monarchies du Golfe. Donc, on le sent bien, le rôle que le Maroc veut jouer, non seulement en Afrique, mais surtout comment il veut être regardé aussi par le reste du monde, jusqu'à quel point ça pèse ça, et ça pèse peut-être d'ailleurs quand même à l'intérieur sur le moral marocain. Ou est-ce que c'est juste l'agenda de Mohamed VI ?
Non, il y a une fierté incontestable au Maroc, il y a un vrai nationalisme, même un monarchisme, il y a une fierté nationale qui est liée notamment à ses succès, on parlait du sport, mais aussi à ses succès diplomatiques, à cette reconnaissance, il y a quelque chose qui incontestablement fonctionne de ce point de vue-là, mais c'est en décalage par rapport à la situation socio-économique et au sens très large du terme, c'est-à-dire les services sociaux, les jeunes, la Gen Z, quand ils se sont soulevés, ils ont bien dit, n'investissez pas dans les stades, mais dans nos hôpitaux. On se rappelle que tout est parti d'un hôpital d'Agadir dans lequel 8 femmes en couche sont mortes en quelques semaines. Et donc, c'est cette détresse sociale qui... c'est pas nouveau, vous me direz, à l'échelle du Maroc. On avait les bidonvilles dans les années 80. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, mais on n'est pas vraiment... On n'a pas fait basculer une partie suffisante du pays dans la classe moyenne. Les classes pauvres, les classes populaires qui ont du mal à terminer le mois et qui mangent pas de viande, qui ont un régime, une forme de diète imposée, elle représente la majorité de la population. Et c'est là, évidemment, que le décalage, notamment avec l'Europe et avec la diaspora aussi, fait mal, parce que les Marocains, aujourd'hui, sont connectés, ils savent très bien comment ça se passe ailleurs, d'où cette, évidemment, envie très partagée d'une très grande de la majorité de la jeunesse de partir, mais ça n'est pas possible, bien sûr, c'est compliqué.
Vous parlez de décalage, Pierre Vermeulen, moi j'ai été frappé en préparant cette émission par cette phrase du ministre des Sports, c'est lorsqu'il annonce, je crois, la Coupe du Monde 2030, il a cette phrase, il dit « Cette Coupe du Monde ne sera pas une simple manifestation sportive, mais un projet civilisationnel par excellence, incarnant la vision clairvoyante de Mohamed VI et consacrant le leadership du royaume comme un trait d'union entre les continents et les civilisations. » Enfin, ça dit quand même le poids qu'ils y mettent. Je me demande jusqu'à quel point le sport accélère réellement ce leadership recherché par le Maroc, qui commence à être travaillé diplomatiquement et aussi économiquement pour être un vrai hub.
Il y a la volonté d'être un pays pont, si vous voulez, entre l'Afrique et l'Europe, l'Occident.
Et la Coupe du Monde, elle dit
et
ça.
Et la Coupe du Monde, elle dit ça parce que
c'est Maroc, Portugal, Maroc... Espagne.
Voilà, d'abord, absolument. Et puis, d'autre part, le Maroc va accueillir des millions de... Parce que là, la CAN, c'est interafricain, mais là, ça va accueillir des millions de touristes et de sportifs, de supporters internationaux qui vont circuler, qui vont déambuler, qui vont vivre au Maroc. Donc, il y a un contrôle sécuritaire extrêmement important, il faut le préciser. On le voit d'ailleurs pendant cette CAN, qui concerne la population, la jeunesse, mais aussi les touristes. Donc, beaucoup de contrôle sécuritaire, beaucoup de contrôle de la parole, des réseaux sociaux, etc. Une volonté de réussite, mais qui aussi pèse, évidemment, il faut le dire, sur la population. Donc, qui est partagé, qui est un peu schizophrène, avec beaucoup de joie d'un côté et de fierté, je dirais plutôt. Et alors, je la joie si, bien sûr, le Maroc gagne, mais aussi rien n'est oublié, évidemment, parce que le quotidien des gens et leur avenir, il se passe au Maroc et il se passe pas à la télévision. Il se passe pas dans la joie patriotique, il se passe dans le quotidien. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus raide.
Pierre Vermeulen, le roi Mohamed VI n'a pas donné le coup d'envoi de la canne, c'est son fils qui l'a fait, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. En fait, tout le monde sait qu'il est malade, c'est un secret de Polichinelle. Est-ce que ce changement-là, qui interviendra à un moment dans une échéance qui doit être un court et un moyen terme, est-ce que ce changement-là donne des espoirs à la jeunesse marocaine, aux Marocains, ou est-ce que ça ne voudra finalement pas dire grand-chose ?
Bon, il est malade, mais il était en voyage pendant le lancement de la CAN au départ. Hein, il était dans le Golfe, donc... Voilà, c'est un choix aussi de mettre son fils en avant, je pense, pour préparer la succession. De ce point de vue-là, le travail est fait, notamment dans les têtes. L'espoir, oui, il y a toujours un espoir en début de règne. Il y avait eu énormément d'espoir au début du règne de Mohamed VI.
C'était le roi réformateur, c'était le jeune roi, il avait des idées. On pensait qu'il serait moins autocrate que l'a été son père. Est-ce qu'on espère
la
même chose ?
Alors oui, il a été moins, mais le Maroc a encaissé beaucoup de chocs. La main a été moins lourde. Des choses se sont incontestablement améliorées, mais effectivement, encore une fois, la question sociale reste énorme, pendante. Elle s'améliore grâce à la réduction du taux de natalité, hein, qui s'est vraiment effondré ces dernières années au Maroc, comme en Tunisie ou dans d'autres pays. Mais l'espoir, si vous voulez, il ne peut pas reposer sur un jeune homme que les Marocains ne connaissent pas. Ils le voient, il paraît assez strict, assez rigide. Tout le monde l'associe déjà à son grand-père Hassan II. Ce sera le futur Hassan III. Ça fait partie aussi du discours qui accompagne sa venue, parce que ça sous-entend une main à poigne,
mais
autoritaire.
Mais c'est ce que j'allais dire, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle d'être un Hassan III ?
On a reproché à son père, parfois, enfin au roi actuel, les Marocains lui ont souvent reproché de ne pas être assez autoritaire, de laisser la corruption se développer, de ne pas avoir la main assez lourde avec ceux qui le méritent. Bon, donc il y a aussi ce rêve d'une monarchie autoritaire qui parviendrait à sortir le Maroc de tous ses problèmes, mais évidemment, on est dans la mondialisation, les emplois, ils sont en Asie, et comment les faire revenir au Maroc. Il y a eu des tentatives, notamment dans l'automobile, mais l'Europe elle-même est en difficulté et tout se tient. Hein. Ce n'est pas seulement une question locale, c'est une question internationale aussi, l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui.
Pierre Vermeulen, merci beaucoup. Le match ce soir, donc vous regarderez peut-être, non, quand le Maroc va s'arrêter. Donc c'est dans quelques heures maintenant contre le Nigeria et on attend les résultats de Sénégal.
21h.
Égypte, ouais. 21h, absolument. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. Merci. La suite ce soir, c'est vous, Louise Baudet, c'est Le Monde à l'endroit.
Avec Trump qui va peut-être frapper en Iran, peut-être pas. On se perd ce soir en conjecture et on revient 500 ans en arrière, vous allez voir.
Allez, juste après ça.
Looks like
I'm falling in love, c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse.
C'est vrai, c'est
tout le 18-20.
Et Louise, vous nous expliquez pourquoi Donald Trump hésite a lancé une opération militaire contre l'Iran.
Et oui, l'aide est en route, a-t-il pourtant promis, lui qui n'a pas peur d'utiliser la force militaire. Un homme pressé à entendre ses conseillers, sans doute enivré par le succès de l'opération Commando qui a destitué le vénézuélien Nicolas Maduro. Frappé d'hubris, le président américain, impatient de remodeler l'ordre mondial à sa main, alors que l'affaiblissement du régime des Mollahs lui offre une occasion unique de décapiter un ennemi historique.
Mais est-ce que c'est vraiment son objectif,
hein? Et oui, c'est la première question qui n'est pas encore tranchée. L'administration américaine veut-elle faire tomber le régime ? Veut-elle l'affaiblir en frappant ses capacités militaires et ses gardiens de la révolution ou l'obliger à négocier en visant l'abandon du programme nucléaire iranien ? Autre question, les moyens militaires mis en œuvre, sachant qu'aucun porte-avions américain ne croise plus dans la région, l'USS Gerald Ford étant redéployé dans les Caraïbes depuis l'été dernier. Enfin et surtout, quel est l'intérêt des États-Unis à agir, à vouloir changer un régime de l'extérieur, dans une région où les interventions américaines ont provoqué des crises durables, de l'Irak à la Syrie, en passant par la Libye.
Et Donald Trump a d'ailleurs bâti sa carrière politique sur le rejet de ce type d'opération.
Oui, lui qui en 2015 appelait l'Amérique à cesser de jouer les gendarmes au Moyen-Orient et à simplement prendre le pétrole. Lui qui a promis pendant sa campagne d'éviter les guerres sans fin et de ne plus se précipiter pour renverser les régimes étrangers que nous ne connaissons pas. Lui qui a fait de l'Amérique d'abord la promesse fondatrice du Trumpisme, il hésite peut-être à se lancer dans une opération dont il n'est pas certain qu'elle serve les intérêts américains.
Et c'est pourtant pas l'interventionnisme qui lui fait peur, en tout cas il vient de le prouver.
Effectivement, le pétrole du Venezuela est un ressort puissant, tout comme la richesse des sous-sols groenlandais que Donald Trump est bien décidé à racheter à coût de centaines de milliards. Capter les ressources au bénéfice de l'Amérique pour en priver les autres, et notamment la Chine, voilà qui est raccord avec la promesse de Donald Trump et avec son logiciel qui a à voir, attention, avec un courant de pensée économique vieux de 500 ans. Le mercantilisme ou la puissance étatique au service du commerce et le commerce comme outil de la puissance étatique, théorie contemporaine de la colonisation du Nouveau Monde au XVIe siècle et du triomphe de la monarchie absolue au XVIIIe.
Et donc ce Trump mercantiliste, ça nous renvoie à la guerre des droits de douane.
Oui, et à la façon dont il use de cette menace, comme contre les pays commerçants avec l'Iran, le Venezuela ou la Russie. L'économie comme la géopolitique sont considérées comme des jeux à somme nulle, soit on gagne, soit on perd. L'inverse de la promesse du libéralisme qui est que le commerce peut enrichir tout le monde et la justification de ce que seule la force compte. Sans le savoir peut-être, ou en tout cas sans s'en soucier, Donald Trump réinvente le mercantilisme prélibéral et s'il décide de frapper en Iran, ce qui n'est pas exclu, la seule certitude c'est que ça ne sera pas au nom de la démocratie ou des droits de l'homme, mais bien au profit des intérêts américains.
Louise Baudet, merci beaucoup. Louise, on se retrouve demain. Le reportage.
Camaradas, olha aí, olha aí, olha aí, bonzinho, você tem isso.
Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour au Portugal, ce soir, premier tour dimanche, de l'élection présidentielle et des sondages qui, pour la première fois, anticipent sur une présence au second tour d'André Ventura, le candidat d'extrême droite, ancien commentateur sportif, 43 ans, député. Il est le fondateur et leader très charismatique du parti nationaliste Chega, ça veut dire AC en portugais, un parti nié il n'y a même pas 7 ans dans un pays, vous le savez, sorti de la dictature de Salazar il y a à peine plus de 50 ans. Comme ailleurs, Chega fait son électorat dans d'anciens bastions historiquement de gauche. Nous allons d'ailleurs au sud de Lisbonne, dans une ville qui s'appelle Quinta do Anjou, 14 200 habitants. Et le reste, c'est Nicolas Piquet qui raconte.
C'est l'heure du déjeuner dans ce petit restaurant sans prétention, typique du Portugal. Ça s'appelle une tashka. On y mange des plats traditionnels, copieux, dans une ambiance chaleureuse, entre amis, en famille. Sergio est assis en tête-à-tête avec sa femme. Pour l'élection présidentielle, son choix est fait.
Vous votez Chega. Acredite nos idéaux de Ventura.
Il va voter Chega parce qu'il est d'accord avec les idées d'André Ventura.
Je vote en fonction de la personne. Je peux même vous dire que dans mon village, je vote à gauche. Enfin, je votais à gauche. Maintenant, c'est Chega.
Ce père de famille de 52 ans récite un à un les arguments de campagne de son candidat.
Aujourd'hui, on travaille pour des gens qui n'ont jamais rien fait. On cotise pour des gens qui n'ont jamais rien fait. Il y a des migrants qui viennent ici et qui vivent à notre crochet. Il faut qu'il y ait une révolution.
L'immigration, André Ventura en a fait son combat politique principal, alors que pendant longtemps, ce n'était pas un sujet au Portugal. Pour favoriser la croissance et la démographie, le pays a facilité l'entrée des étrangers. Et depuis 2017, leur nombre a été multiplié par 4 selon l'Agence pour l'intégration, la migration et l'asile. D'après les statistiques de Port Data, le taux de pauvreté est plus élevé chez ces immigrés que dans la population portugaise.
Est-ce que Ventura est une bonne option ?
Non.
Non. La plupart de ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais une grande partie du peuple vote pour lui parce que c'est le seul qui redonne de l'espoir.
Rodrigo a 28 ans, il est en bleu de travail, couvert de peinture. Il déjeune avec 2 collègues. Lui aussi a choisi André Ventura. Un vote par dépit, symptôme d'un sentiment de déclassement.
Je travaille toute la semaine, de 9h à 17h. Puis à nouveau de 18h à 21h. Le week-end, je travaille de 8h du matin à 8h du soir dans le BTP. J'ai 3 métiers. J'atteins à peine 2000 euros par mois. Après avoir payé la maison et la crèche de mon fils, il me reste plus rien. Pour moi, le socialisme, c'est super dans la théorie, mais en pratique, au Portugal, ça fonctionne pas. André Ventura, il gagne parce que les gens sont désespérés.
Quelques rues plus loin, c'est bientôt la fin du marché couvert.
Joaquim Fernando, je vends du poisson et des légumes.
Et vous allez voter dimanche prochain ?
Oui, je vais voter André Ventura. Il n'a pas peur, il n'a pas sa langue dans sa poche, et tout le monde le comprend.
Il dit aussi des choses ouvertement raciste.
Je ne pense pas qu'il soit raciste. Il dit des vérités qui doivent être dites.
Les gens sont saturés. Après des années de gouvernement de gauche et de droite, Chega ramasse la miette.
Antonio s'approche, voûté sur sa canne. Lui a connu la dictature et depuis, il a toujours voté pour la gauche. Il avait 26 ans le 25 avril 1974, le jour de la révolution.
À l'échelle nationale et internationale, c'est de plus en plus à droite. La dictature peut revenir à tout moment. L'histoire se répète. Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur pour moi, surtout pour mes petits-enfants.
Dans ce bastion communiste depuis la Révolution, l'extrême droite a gagné d'une courte tête aux dernières élections municipales. De quoi inquiéter Ligia, 31 ans. C'est la toute dernière cliente du marché.
Oui, j'ai peur du retour de la dictature, ou peut-être de quelque chose similaire à Bolsonaro au Brésil, ou à Trump aux États-Unis. Mais je crois que le 25 avril, même pour ceux qui ne l'ont pas vécu, comme moi, fait partie de la culture. Et je pense que quand même, cette mémoire résiste.
Avant de partir, chargée de légumes, elle remonte la manche de son manteau. Sur son poignet droit, elle s'est fait tatouer un œillet, la fleur, symbole de la révolution du 25 avril.
Nicolas Piquet pour le reportage, merci beaucoup. La suite, ça se passe sous les radars et c'est vous Guillaume Audin.
Sous les radars au Yémen où Total laisse un très lourd héritage aux paysans du pays, des eaux noires et polluantes qui, des années durant, ont dévasté leur culture.
Et Ilana Mourioussef, juste avant 19h, Ilana, vous relisez, lisez chaque semaine ce qui résonne avec l'actualité.
Oui, et épouser un personnage de fiction, c'est possible. Ça se passe au Japon et on ira là-bas.
en partie. Épouser un personnage de fiction. Restez avec nous, le tour de la planète fait un petit crochet par New York avec Anony and the Johnson, Epilepsy is Dancing.
Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me, down the brain of my river. Oh, the fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love. My eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden veil. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching. There's a soldering blue line between my eyes. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants.
Johnson's Epilepsy is Dancing sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Sous les radars, il y a Guillaume Audin.
À l'été 2022, je me rends au Yémen et je découvre les eaux noires de Total.
Les eaux noires de Total, l'héritage encombrant de la compagnie pétrolière française accusée de polluer les sols, les eaux, les habitants du Yémen depuis plus de 15 ans.
C'est une enquête au long cours réalisée par le journaliste d'investigation Quentin Muller, dont on vient d'entendre la voix, et qui démontre qu'au Yémen, dans les années 2010, Total a cherché à dissimuler des fuites de pétrole massives en payant, je cite, $5 par jour des Yéménites chargés de faire disparaître les taches noires, un nettoyage purement cosmétique, sans parler des eaux toxiques qui remontent avec l'or noir au moment de l'extraction. C'est ce que racontent les interlocuteurs du journaliste dans les pages de La Croix ce mercredi. Total n'a jamais construit d'usine de nettoyage de ces eaux, très mal stockées. Certaines ont fini par se déverser dans les vallées sur des centaines de kilomètres. Plutôt que de dépolluer, la multinationale aura versé de bien maigres compensations à 500 paysans yéménites, sauf que 69 d'entre eux ont choisi d'attaquer l'entreprise. Les plaignants espèrent apporter la preuve d'un lien entre la hausse des cancers sur place et ses pollution. Ouverture du procès le 20 janvier prochain à Paris.
The World Bank remains concerned with trade uncertainty due to high debt burdens.
Verdict inquiétant de la Banque mondiale. La croissance dans le monde a décroché depuis le Covid. Elle ne suffit plus à réduire la pauvreté.
Et c'est l'Afrique subsaharienne, on l'a entendu dans cet extrait, qui paie le prix fort de ce décrochage. Un quart des pays en développement se retrouvent aujourd'hui plus pauvres qu'ils n'étaient en 2019, juste avant la pandémie. C'est un recul. On parle de pays comme le Tchad, le Mozambique, la Namibie, la Centrafrique. Et ce qui inquiète d'autant plus, c'est que de grosses économies comme le Nigeria et l'Afrique du Sud accusent également le coût. Trop de dettes, trop peu de réformes, des régimes souvent figés et la suspension aussi, il faut le dire, d'un certain nombre d'aides de l'administration Trump envers ces pays. Le cocktail est moribond, il a un impact planétaire en Afrique comme ailleurs. L'essoufflement de la croissance mondiale entraîne plus d'incertitudes et donc plus d'instabilité, par exemple des guerres, des famines et donc plus de pauvreté.
Et ces cris-là, ces cris effrayants, ce sont des Indiens qui fuient à toutes jambes la furie d'un éléphant.
D'un éléphant tueurs. Les images qui accompagnent cette bande sonore sont tout aussi époustouflantes qu'effroyables. Personnellement, je n'avais jamais vu ça. Ça se passe dans l'état du Jharkhand, dans l'est de l'Inde. On découvre un pachyderme qui s'acharne sur le corps d'un homme totalement désarticulé. Cette affaire, elle met en alerte, sinon en panique absolue, les autorités de cet état, évidemment les populations qui y vivent. Une centaine de gardes forestiers est aux trousses de cet animal déchaîné, qui court encore. Il est en liberté depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis moins de deux semaines. Cet éléphant extrêmement violent a tué 22 personnes. Il parcourt une trentaine de kilomètres par jour, attaque plutôt la nuit. Alors, il ne faut évidemment pas le croiser sur sa route. Ça a été le cas malheureusement et dernièrement pour un couple et ses deux enfants. Le phénomène reste marginal, mais il a tendance à se reproduire de plus en plus ces derniers temps. La déforestation de ces régions, l'élargissement des zones urbaines et donc la raréfaction de l'eau comme de la nourriture que cela entraîne, ça a tendance à surexciter ces éléphants tueurs qui cherchent comme ils le peuvent à se protéger des humains.
Guillaume Audat, merci beaucoup Guillaume. Le mercredi, Ilana Mor-Youssef plonge dans sa bibliothèque au fil de l'actualité. Ça s'appelle Écrire le Monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Ilana, ça s'est passé le 13 décembre 2025 dans une chapelle de la ville d'Okayama. C'est au Japon. Vêtue d'une robe de mariée, Lucie, c'est une Française, elle a 24 ans, prononce le vœu de rester pour toujours aux côtés de Mamie. Une pluie de pétales enveloppe le couple, c'est ce que raconte Libération. La cérémonie est retransmise en distanciel. En France, il est 3h du matin, les parents, les frères, les amis de Lucie sont devant leur écran, sauf que...
Eh bien, sauf que Mamie n'est ni un homme, ni une femme. C'est un personnage de manga dont Lucie est tombée amoureuse. La rencontre, dit-elle à Libération, date d'il y a 5 ans. À l'époque, Lucie a 19 ans, elle est étudiante à Sciences Po, et peu à peu, elle va organiser sa vie autour de Mamie, jusqu'à aller vivre et travailler au Japon. Elle est même devenue influenceuse otaku, ça désigne les passionnés de contenu culturel japonais. Elle a plus de 20 000 followers sur Instagram, et selon Libé, cela traduit une tendance lourde, celle qui consiste à afficher l'amour qu'on éprouve pour un être fictif. Au Japon, cette tendance concernerait 14 millions d'hommes et de femmes à des degrés divers, 11% de la population.
Et alors, ça a l'air de vous perturber, pardon, mais moi aussi, beaucoup quand même. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, oui. Si on peut...
Alors, en découvrant cette histoire, j'ai d'abord été amusée, j'ai ri, et puis je suis devenue perplexe. Est-ce que désormais, tous, nous allons vivre à cheval entre la fiction et la réalité, au risque de les confondre? J'ai pensé à La Rose Pourpre du Clair de Woody Allen, qui date de 1995. Mia Farrow et Cecilia, une serveuse de brasserie, qui se console des vicissitudes de l'existence en allant au cinéma. Et un jour, alors qu'elle revoit un film pour la cinquième fois, un personnage sort de l'écran. C'est Tom Baxter, un explorateur, qui lui fait une déclaration d'amour.
I gotta speak to you.
You mean me?
Tom Baxter's come down off the screen and he's running around New Jersey.
How can he come off the screen? It's impossible. It's never happened before in history.
In New Jersey, anything can happen.
Come away with me to Cairo.
C'était tellement bien, c'était tellement mignon ce film, sauf qu'Ilana, on est ici pour parler de bouquins.
Oui, alors merci de ce rappel à la réalité, Fabienne. Donc je me suis demandé s'il existait un roman dont le protagoniste tombe amoureux d'un personnage de fiction. Et j'ai trouvé Don Quichotte de Miguel Cervantes. Don Quichotte à la tête farcie de romans de chevalerie, au point qu'il décide de devenir lui-même chevalier. Et comme tout chevalier qui se respecte, il lui faut une bien-aimée, ce sera Dulcinée. Je suis allée voir William Marx, professeur au Collège de France, pour tester mon hypothèse. Et il ne m'a pas ri au nez.
Déjà ça ?
Oui, oui, m'a-t-il dit, on peut très bien considérer les romans de chevalerie que lisait Don Quichotte comme les mangas du XVIIe siècle.
Les romans de chevalerie sont des romans populaires qui ne sont pas considérés comme sérieux. Don Quichotte a lu beaucoup, mais ces lectures ne sont pas des lectures sérieuses telles qu'elles auraient été considérées par les savants de l'époque. Donc oui, on peut dire que clairement ce sont les mangas, ce sont des lectures de divertissement. Mais le problème de Don Quichotte, c'est qu'il prend ces lectures distrayantes et de divertissement et il les prend pour une description de la réalité. Et donc, il part à l'aventure et il va vivre sa vie comme un personnage de fiction. Et parmi ces aventures-là, l'aventure principale, celle qui le détermine dans toutes ses actions, c'est l'amour qu'il éprouve et qu'il professe pour une femme, un être totalement idéal, c'est-à-dire qu'il n'existe que dans son idée, que dans son esprit, qui s'appelle Dulcinée.
À vous donc, aimable et bien aimante Dulcinée, la plus blonde, la plus pure, je dédie chacun de mes exploits à venir.
Alors, on vient d'entendre, c'est un extrait de la série Un été avec Don Quichotte que William Marx, justement, a enregistré pour France Inter il y a 2 ans. Donc, voici notre Don Quichotte, épris d'une femme qui n'existe que dans son imagination, Dulcinée, qui donnera en français le nom commun une Dulcinée. Mmh. Il est question d'elle partout dans le roman, mais on ne la voit jamais, et pour cause. Sauf que Don Quichotte, lui, il y croit dur comme fer. Il a même chargé son valet d'aller lui remettre une lettre, et le valet a beau lui dire que Dulcinée n'est en réalité qu'une robuste paysanne que son imagination transforme en princesse, il ne veut pas entendre raison.
Comment ? Madame Dulcinée du Toboso, c'est Aldonza Lorenzo ? Elle-même, et elle mérite bien d'être souveraine de tout l'univers. Mais je la connais bien. Et je peux vous assurer qu'elle lance une barre de fer aussi loin que le gaillard le plus robuste du pays. Tudieu ! Ça, c'est une fille comme on n'en fait plus. Bien plantée, forte comme un taureau, capable de donner un coup de main à n'importe quel chevalier, errant ou pas qu'il l'aurait pour dame. C'est qu'elle est solide, la garce.
Alors, Ilana, est-ce qu'il est fou, Don Quichotte ?
C'est la première pensée qui vient à l'esprit. Mais William Marx n'est pas d'accord. Nous nous sommes un peu chamaillés là-dessus. Il m'a même reproché d'avoir un point de vue étroitement normatif et... Il m'a expliqué pourquoi.
Ce que nous dit Don Quichotte, ce que nous dit Cervantes, c'est que dans un monde qui part à la dérive, dans un monde totalement fou en fait, où l'on ne peut faire confiance à rien, il n'y a que l'idéal qui peut nous permettre de vivre. Nous avons besoin d'un idéal, nous avons besoin d'une fiction pour pouvoir organiser, structurer notre existence. Et ce n'est pas être fou que de faire ça. Paul Valéry disait « Que serions-nous ?» sans le secours de ceux qui n'existent pas. Donc, cette personne-là, au Japon, qui épouse un personnage de fiction, si ça lui donne un équilibre dans sa vie, et si elle est bien consciente, qu'effectivement, elle, je crois qu'elle en est consciente, qu'il s'agit d'un personnage de fiction, je dis qu'elle fait quelque chose de relativement rationnel, au bout du compte.
Voilà, la faculté à parler. Et donc, il a même poursuivi sa démonstration un peu plus loin, William Marx, dans certains ordres religieux, m'a-t-elle dit, lorsque les religieuses prononcent leurs vœux, elles portent une alliance, car elles se considèrent comme les épouses du Christ. Vous voyez qu'on peut aller loin, et cela soulève beaucoup de questions, notamment sur la place que la fiction tient dans nos vies. Et donc, je me suis demandé, vous, Fabienne, quel personnage de fiction épouseriez-vous ? Ça vaut un téléphone sonne,
ouais,
non ?
Peut-être bien. Alors j'ai envie de dire Indiana Jones parce qu'il a l'air assez festif et surtout il n'est jamais là.